Bon, en quelques mots, l'Association des libraires du Québec demande à des gens connus de suggérer des livres pour le temps des fêtes, des achats, des livres coup de cœur. François Legault, qui lit pas mal, a présenté sa liste. Il y a même une vidéo. Sauf que là, on dit « wow, wow, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le racisme systémique ». Là, on parle de gens qui se sont plaints et qui fait la promotion du livre de Mathieu Bock-Côté. Alors là, on a vu l'Association des libraires, évidemment, céder à la pression, retirer la liste, puis faire une mise en garde en disant « ce que Legault dit, ça ne veut pas dire qu'on le pense ». Lise. on parle de choix de livres, toujours.
Vous m'en direz tant. Oui, exactement. Quand j'étais couventine dans un autre siècle, dans la bibliothèque du couvent que je fréquentais, il y avait une section vitrée, fermée à clé. C'était la section des livres à l'index. L'index, c'est un truc inventé par le Vatican dans les années 1700. Ce sont des livres qu'on ne doit pas lire parce que notre âme pourrait être mise en danger. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait Pascal, il y avait Balzac, il y avait Voltaire, il y avait Rousseau. Je veux dire, plutôt des grands classiques de la littérature française. Et c'était considéré comme, pour prendre un mot à la mode, toxique. Et nous, les couventines, n'y avions pas droit. Je me demande qui y avait droit, là, mais enfin, bref. Ben, est-ce que c'est en train de revenir? Et sans vouloir faire une plus grosse histoire avec ça que ce n'est, j'aimerais quand même rappeler que depuis une dizaine d'années, on est dans ce qu'on appelle, ça fait partie de tout ce qui nous vient des États-Unis, là, le nouveau progressisme, la culture woke, c'est-à-dire les gens éveillés qui savent tout, quoi. C'est plus que le commun des mortels, et qui peuvent décider à notre place ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous. Et je me souviens, pendant le printemps étudiant, j'avais remarqué l'existence de ça parce que les étudiants choisissaient souvent les journalistes à qui on voulait donner accès, soit à des réunions, des trucs comme ça, et on prenait juste les journalistes qui étaient favorables à la cause. Les TVA, Radio-Canada et compagnie, eux autres, on les laissait dehors quand on ne vandalisait pas carrément leur équipement. Je disais, wow, minute, là! Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe, et c'est pas juste au Québec, c'est partout. Il y a quand même en France un professeur qui a perdu la vie et la tête pour avoir défendu la liberté d'expression, et on est là, béant, à regarder. « Ah, ben gardons, les libraires, ils aiment pas les livres de Monsieur Legault, puis ils aiment pas Mathieu Bock-Côté. » Il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques années, Mathieu devait, qui est un ami, je vais le dire, devait donner une conférence à l'UQAM, et que l'université avait été obligée d'annuler la conférence tant il y avait des protestations. Ça s'arrêtait où, ça? On s'en va vers quoi avec ce mouvement-là de woke, de ou ce qu'on appelle aussi cancel culture ou la culture du bannissement? Je pense qu'on peut pas regarder ça comme étant seulement un épiphénomène. Il y a quelque chose là auquel il va falloir éventuellement s'attaquer.
Luc? Moi, je pense pas que c'est un épiphénomène parce que c'est porté par un fort courant aux États-Unis, puis nous, on fait partie de l'Amérique, fait que c'est sûr qu'on est touché. Mais ça va pas aller loin parce que c'est tellement fragile, parce que c'est tellement psychosé. La culture woke, c'est une culture de l'interdiction. C'est une culture qui est à contre-culture de toute
la
société.
De la contre-culture.
Ben oui, c'est une contre-culture. L'interdiction, ça marche plus. Je veux dire, tu sais, tu viens de faire le parallèle entre l'Église catholique puis les woke. Mais quand c'est là toute la réalité, c'est-à-dire que est-ce que les woke veulent vraiment être la poursuite de l'Église catholique dans sa grande noirceur? C'est ça qu'ils veulent faire? Interdire? Ou alors, peut-être que tu pourrais, des fois, avoir le droit, mais il faudrait que tu ailles au confessionnal, pas après. J'ai lu Mathieu Bock-Côté. Ah. Ou alors, j'ai dit le N-word. Ah, ben là, je vais au confessionnal. Mais là, en fait, je pense que tu n'as même pas le droit. Le confessionnal n'est pas permis. En fait...
Je peux-tu rapporter une joke?
Vas-y, ben oui.
Une blague très drôle que Joseph Facal aurait faite à Télé-Québec. Il aurait dit, autrefois, une mauvaise joke, c'est une mauvaise joke. Aujourd'hui, une mauvaise joke, c'est un crime contre l'humanité.
Ben oui, c'est vrai. Mais on voit bien que ça, c'est porté par quelques... personne. C'est pas un mouvement qui va s'implanter au Québec. Il est dénoncé vertement. On a vu avec la décision de l'Université d'Ottawa, qui poursuit d'ailleurs dans son hérésie, que les Québécois ne s'identifient pas du tout à ce mouvement-là. Toi, tu parlais de ton expérience de Conventine. On peut parler de Joseph Guibord aussi. Joseph Guibord, c'est cette personne-là qui rendait disponible des livres qui étaient à l'index. Mm-hmm. Et il était tellement détesté par l'Église catholique que quand il est mort, l'Église catholique a refusé qu'il soit enterré dans le cimetière Côte-des-Neiges. Et finalement, après 4 ans de poursuite judiciaire, il a pu être enterré dans le cimetière Côte-des-Neiges, mais il a fallu qu'il y ait une telle manifestation pour empêcher qu'il soit enterré, qu'il a fallu que l'armée accompagne le cercueil. Bon, alors, et l'armée a accompagné le cercueil jusqu'à son et immédiatement après qu'il fut enterré. L'Église a désacralisé le morceau de cimetière dans lequel il est enterré. Fait que c'est un cimetière catholique, sauf l'endroit où est enterré Joseph Guibord. Et la rue Guilford, on raconte qu'il y a une très forte possibilité que la rue Guilford, parce que Guilford, ce n'est pas un nom connu de nulle part, ça aurait dû être la rue Guibord, mais qu'on a transformé le nom pour ne pas honorer la mémoire de Joseph Guibord. Donc, c'était la grande noirceur, là. Et est-ce qu'on pense qu'on va retourner là? Ben non, on ne va pas retourner là.
Mais si on revient là, à la base, tu as des libraires qui veulent quoi dans la vie? Ils veulent vendre des livres, hein? Il me semble que c'est ça l'objectif. Ils veulent amener, par le biais de personnalités connues, des lecteurs à se procurer un livre. Parce que tu dis, si Legault aimait ça, ben moi j'aime Legault, alors moi, tu sais, peut-être. Et là, tu le sais que de prendre un politicien, tu t'exposes. Tu le sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Tu le sais que... C'est pourquoi tu as couru après le trou, puis pourquoi tu as succombé à quelle pression de combien de personnes exactement?
Si vous permettez, je vais répondre à ça, parce que donc. Moi, j'ai un peu cette habitude-là. C'est-à-dire que l'habitude de faire face à une tempête médiatique. Puis une tempête médiatique, c'est impossible de résister à une tempête médiatique si tu n'es pas préparé. C'est pour ça que la ville de Longueuil a changé sa décision sur les serres. Là. Ça n'a rien à voir avec la droite puis la gauche. Là. La décision... Les biologistes disent « Faites surtout pas ça. De toute manière, les cerfs, ils vont revenir, ils vont se reproduire. Il va falloir les redéplacer à tous les 2 ans. C'est impossible. Ça marche pas. C'est pas une bonne solution. » Bon. Et Longueuil a cédé. Pourquoi? Parce que la tempête médiatique, la tempête, pas juste médiatique d'ailleurs, d'opinion, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Ça commence par les gens que tu connais et que tu aimes le plus qui t'écrivent à toutes les heures en disant « Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais change d'idée. Mais dépêche-toi. Mais quelle erreur! » Et là, si t'es pas entouré d'une garde rapprochée de personnes qui sont prêtes au combat, tu cèdes tout de suite. Et c'est ça qui est arrivé à l'Association des libraires. Ça ne sont pas des politiciens prêts au combat. Ils ont reçu des milliers, peut-être, non pas des milliers, mais des dizaines de courriels.
Oh, peut-être même pas.
Oh non, moi je pense
que
ça peut être très fort.
Moi je trouve que ça sent le 3-4 chums woke.
En tout cas, Lise, moi je pense que c'est très très fort l'homme de courriel, parce que les gens qui les lisent, les gens qui achètent des livres sont plutôt des progressistes qui sont...
Ben là!
Ben oui.
Bon, ben je vais arrêter d'acheter des livres d'abord.
Ben il y a toi, puis il y a les progressistes qui achètent des livres.
Non, mais ça dépend de ce qu'on entend parler. Tu sais, tu peux acheter... Comment je te dis?
Des livres de cuisine.
Non, mais tu peux... Il y a des livres pour se vider la tête complètement. Il y a des livres qui sont des essais. Tu sais, moi, ça me dépasse. Tu comprends qu'une association dont l'objectif est de faire en sorte qu'on n'encourage pas Amazon puis qu'on encourage le libraire local indépendant... Se soit planté comme ça dans une polémique créée par eux-mêmes. Là,
t'sais. Moi, je fais le pari qu'ils vont s'excuser aujourd'hui.
Ben, on le court après pour ça, mais...
Écoute, s'ils ne s'excusent pas aujourd'hui, je vais être obligé de donner raison à Lise, puis là, ça ne me tente pas.
Ouais, OK, bien, on va aller jusqu'à demain pour lui donner raison. Okay. On fait la pause au retour. Est-ce que la télémédecine, on sait qu'avec la pandémie, c'est de plus en plus utilisé, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire?